I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hello les mamas, bienvenue dans le podcast qui parle de la maternité, la vraie. Celle qui épanouit, qui intrigue, qui fait peur. Celle qui bouleverse, qui construit, qui propulse en terre inconnue. Celle qui concerne tant de femmes que l'on entend si peu. Chaque semaine, l'une d'entre vous nous raconte son histoire sans filtre. Est-ce qu'elle a toujours rêvé de devenir mère? Comment s'est passée sa première grossesse? Quelles ont été les joies et les épreuves qu'elle a traversées? Qu'est-ce que la maternité a changé dans sa vie? Des histoires uniques qui nous rassemblent toutes. Alors, chère mamase, future mamase ou pas mamase du tout, installez-vous confortablement et laissez-vous bouleverser par la maternité, la vraie. Les premières brèches de Marion sont apparues dès l'enfance alors que ses parents ne se sentaient pas vraiment connectés à elle. Elle était le vilain petit canard de la famille et quand son frère réussissait tout, Marion, elle, n'arrivait à rien. Puis elle grandit, loin de l'affection parentale, jusqu'à ce qu'elle se mette en couple avec le bon, celui que sa maman validera en bon gendre idéal et qui resserrera comme par magie leur lien. Marion profite comme elle peut de cette nouvelle relation avec sa mère, mais ce sera de courte durée car elle décède brutalement dans un accident. Quelques mois plus tard, Marion est enceinte avec ses failles toujours bien présentes et un immense deuil à traverser. Mais tout cela, elle va le vivre bien seule, en plein postpartum, avec une belle famille bien trop envahissante qui ne la laisse pas respirer, pire encore, qui ne la comprend pas. Bonne écoute.
Hello Marion.
Coucou Shane.
Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Mamas.
Merci de m'accueillir.
Avec grand plaisir. Alors toi, tu es la maman de combien d'enfants?
Est-ce qu'on doit compter le mec ou pas? Non, j'ai qu'un enfant.
Il a quel âge? C'est une fille ou un garçon?
Un garçon, un petit garçon de 6 ans et demi.
Ok. Alors on va revenir avant que tu deviennes mère, toi plus jeune. Est-ce que tu pensais à la maternité? Est-ce que c'était logique pour toi que tu deviennes mère un jour? Ou c'était pas un sujet qui t'intéressait particulièrement?
Alors, le premier jour où j'ai eu mes règles, je m'en rappelle encore, j'avais 11 ans,
ouais.
J'étais dans les toilettes, la petite cabane au fond du jardin, dans notre maison de famille à Arcachon,
ouais.
Là je vois ces petites taches rouges sur ma culotte en coton et je me dis, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, je peux créer la vie.
Ah, mais en bon ou en...
En bon, en génial, ah ouais. En me disant, waouh, j'ai tellement hâte
ah ouais.
d'être à ce jour, tout en ayant envie de profiter de chaque instant jusque-là, bien sûr. Pour moi, la pire chose que j'aurais pu expérimenter sur cette terre, c'est de ne pas avoir d'enfant.
Mmh.
C'était vraiment quelque chose qui était gravé en moi qu'il fallait que je sois mère.
Ah ouais. Un besoin. Tu sais d'où ça vient,
ça ? Non, j'avoue, je sais pas. Après, j'ai grandi quand même dans une famille... Je vais pas dire dysfonctionnel, mais il y a eu beaucoup de souffrances. J'ai pu bien expérimenter la blessure du rejet, parce que j'ai été placée en famille d'accueil d'abord en internat à 11 ans,
okay.
chez les bonnes sœurs, puis en famille d'accueil à 16.
Ah ouais.
Et je ne suis jamais rentrée chez moi. Donc j'ai quand même, même si avant ça j'avais envie d'être mère, après ça j'avais en plus envie de me créer cette famille à laquelle je ne me sentais pas appartenir, créer ma propre famille.
Ouais, parce qu'après t'es restée en famille d'accueil...
Jusqu'à mes 18 ans, ouais. Et ensuite je suis partie en foyer, j'ai eu mon appartement et je ne suis jamais rentrée chez moi.
D'accord, et t'as gardé quand même contact avec
oui.
Tes parents?
Oui, toujours,
ouais.
Pour être aimée d'eux.
C'est ah ouais, t'étais...
Le syndrome de l'alcoolique qui retourne à la bouteille, pour encore plus se faire du mal. Mais oui, toute ma vie j'ai cherché à me faire aimer de mes parents et puis un jour... Je dis pas qu'on passe à autre chose parce que c'est pas vrai. Aujourd'hui encore, à 38 ans, je continue à chercher la reconnaissance chez mon père.
Ouais.
Mais par contre, j'ai pu nourrir cet amour, ce besoin d'amour en ayant ma propre famille avec le père de mon enfant et mon enfant.
Et comment ça s'explique que tu aies été placée en famille d'accueil? C'était quoi, des violences? C'était et ton papa et ta maman?
Ouais, les deux. Alors, ils étaient toujours en couple. Et en fait, la seule chose, ils se disputaient beaucoup à l'époque. Des jeunes parents, enfin, jeunes parents, oui, une trentaine d'années quand ils nous ont eus avec mon frère. Mon frère qui est de 2 ans, mon aîné.
Ouais.
Je me souviens qu'il savait pas quoi faire avec moi, que j'avais des réactions qu'il ne comprenait pas. J'étais vraiment l'électron libre de la famille, le mouton noir. Et en fait, la seule chose sur laquelle il s'accordait, c'était que ça passait pas avec moi, quoi.
D'accord. Et avec ton frère, ça se passait bien?
Ouais, lui, il faisait pas de vagues. Dès qu'il l'inscrivait à une activité extrascolaire, ça marchait super bien. Concours de piano, ceinture noire de judo. Enfin, le gars, il réussissait dans tout. À l'école, pareil. Et moi, à côté, que des merdes, quoi. Que des échecs. Ouais. Je redouble ma sixième. Le piano, ça marche pas. Le judo, j'aime pas. Enfin, il me comprenait pas, en fait. Et voilà, du coup, très rapidement, je sais pas qui c'est qui les avait guidés vers cette solution-là. Mais ils m'ont extrait de l'équation et comme ça, c'était vachement plus facile, quoi.
Et tu te souviens, toi, quand ils te l'ont annoncé et comment tu l'as vécu ?
Ah bah c'était terrible. Déjà, ouais. Je me sentais incomprise. Je m'étais même demandé si j'avais pas été adoptée par cette famille tellement que je ne correspondais à rien. Bon, je portais quand même les yeux de mon père, l'oreille de ma grand-mère. Bon, quand même, il doit y avoir des trucs. Je crois que je suis née ici. Mais vraiment, de me sentir être une extraterrestre dans ma propre famille, quoi. Totalement incomprise, quoi.
Ouais. Et avec ton frère, ça se passait bien ?
Pas du tout.
Ouais.
Ah bah lui, je le faisais chier, quoi. Oh là là, elle accapare toute l'attention, tu peux pas être normale. Et en fait, je me souviens de ce jour où j'étais sur le canapé avec l'assistante sociale, à mes côtés, et en face de moi, j'avais mon père, mon frère et ma mère, donc trois parents, vraiment dans la position où tous les trois prenaient la décision de « ouais, ça serait quand même mieux qu'elle quitte le foyer et qu'elle aille en famille d'accueil, ce serait mieux pour tout le monde. »
Ah, parce que là, tu rentrais de l'internat et il y avait encore une discussion sur...
Ouais.
Ok. Parce que quand t'étais en internat, tu rentrais aussi le week-end ?
Oui,
ouais.
Mais seulement le week-end. Et puis, il fallait que je parte le dimanche soir, surtout pas le lundi matin. Donc, tu rentres le vendredi, tu repars le dimanche. Okay. Et c'était pas super fun, cette période.
J'imagine. Et avec tes copines, comment ça se passait ? Parce qu'elles avaient peut-être une autre vie de famille.
Ouais, elles avaient des schémas beaucoup plus sains. Et donc, j'allais souvent chez elles et j'essayais de créer des moments de famille, du coup, sans ma famille, quoi. Parce que chez moi... Mais j'ai toujours été perçue vraiment comme la fille à problème, quoi.
Ouais.
Et tu te balades dans cette vie, en fait, en étant convaincue que le problème, c'est toi.
Ouais.
Et souvent, ça se confirme dans ton esprit.
Ouais, donc thérapie et compagnie,
j'imagine. Ouais, psychologue depuis que je suis toute petite, psychiatre. Ouais, qui m'ont donné des outils pour essayer de me comprendre et en tout cas m'analyser.
Ouais.
Et analyser le monde qui m'entoure, quoi. Donc j'ai porté ce mal-être, je vais dire, jusqu'à mes 30 ans au moins, quoi.
Ouais.
Et puis quand t'es pas bien à l'intérieur, forcément, ça impacte les relations que t'as avec le reste du monde, quoi.
Oui.
Donc ça vient encore confirmer le fait qu'il y a un problème.
Ouais.
Mais pas dans le sens, bah tiens, on va essayer de trouver la solution. Non, le problème, c'est toi. Donc si tu t'extrais de l'équation, finalement, il n'y a plus de problème. Donc c'est bon, la solution, c'est que tu te casses, quoi. Donc des relations amoureuses où je suis dans l'autodestruction, le sabotage inconscient, des relations amicales où je suis trop exclusive. Je supporte pas qu'on me mette à l'écart, qu'on m'aime pas comme j'aime, avec beaucoup trop d'intensité démesurée, enfin... Forcément, c'est le bordel, quoi. Les gens, tu leur attribues des rôles qu'ils n'ont pas forcément demandé, de grands frères, de grandes sœurs, de meilleurs amis, et puis forcément, enfin, c'est trop oppressant, déjà, dans un premier temps. Et en plus, c'est décevant pour toi, forcément, t'as pas le retour de ce que tu donnes, quoi.
Et alors, à quel moment le sujet de la maternité arrive dans ta vie ?
Alors, je revois ce jour... C'est pas précis sur la date, bien sûr, mais où, en fait, je sais que ce sera lui, le père de mon fils.
Okay.
Enfin, de mon enfant.
Ouais.
Donc, pour la petite histoire, le père de mon enfant, c'est le fils d'une des meilleures amies de mes parents. Donc, le jour où on annonce qu'on est ensemble, là, c'est bon, je rentre dans une case.
Ah.
Et je suis validée par la famille.
Ah ouais ?
Ah ben, ça va, c'est bon. On connaît les parents, ce sont des gens bien. Donc là, magie. Les nuages quittent le ciel bleu, le soleil sort et tout est facile, les oiseaux chantent, mes parents m'aiment, ils m'acceptent. J'ai la chance pendant 9 mois, et ce qui est rigolo au niveau chronologique, c'est que c'est vraiment 9 mois jour pour jour, c'est-à-dire qu'en fait je suis à Paris à ce moment-là pour le boulot. J'ai déjà écrit mon premier et mon deuxième bouquin, donc je suis à Paris pour essayer de faire la promo, lancer ma carrière d'auteur. Donc on est en 2016.
Ouais.
Pardon, on est en 2015. On est fin 2015, le 7 novembre. Et en fait, c'est le salon de la photographie...
Au Grand Palais.
Au Grand Palais, ou je sais plus où. Donc mes parents viennent à Paris pour cette occasion. Et donc ils logent chez des amis, de la famille. Et donc j'ai toujours été en contact avec cette amie-là de ma mère qui me dit « Bah écoute, tes parents, ils sont là. Viens, allez, on fait un effort. J'ai envie de vous réunir. Je trouve ça trop dommage. » Moi, ça faisait déjà un an que j'étais à Paris. Et donc, on passe le week-end ensemble. Et c'est là que je leur dis, regardez, Audrey qui m'a acheté une bague de fiançailles, on va se fiancer. Bon, on va peut-être pas se marier, mais voilà. En tout cas, c'est pas que ça à la fin de l'année. Et là, ce jour-là, on passe un week-end merveilleux. Et à partir de là, je rentre 2-3 semaines après dans le sud-ouest habiter avec mon conjoint. Et là, la relation mère-fille que j'ai toujours rêvé d'avoir de ma vie. Quoi.
C'est dingue, vous en avez jamais parlé toutes les deux de ça ?
Ben, bien sûr que si.
Ouais.
Bien sûr que si, mais... C'était « Maman, t'es où? Tu fais quoi ?»« Ah bah là, je suis dispo, viens, on va manger ensemble, on va prendre le café, on va à la piscine, on va en vélo à la piscine, on va nager entre midi et deux. » Enfin, le truc de dingue. C'est des super moments, on passe Noël en famille, les deux familles réunies, enfin, le truc idyllique, quoi. Et en fait, bon, c'est pas si idyllique avec mon conjoint, parce que bon, on s'embrouille souvent, mais il y a de l'amour, quoi. Et en fait, je pars faire un voyage humanitaire fin juillet 2016, et... 3 jours après mon départ, Audrey qui essaie de me contacter par WhatsApp, ça marche pas, machin, il m'appelle, ça marche pas, machin, pour m'annoncer qu'en fait ma mère vient de mourir. Et on est le 7 août 2016.
Ah oui, d'accord.
9 mois après.
Ok.
Donc après, va interpréter ça comme tu veux.
Ouais. Et un accident ?
Ouais.
D'accord.
Un accident de montagne en rando avec mon père. Donc là, retour catastrophe. Deuil compliqué puisque on part sur un accident, donc c'est brutal, donc le cerveau n'a pas le temps d'ingérer, de comprendre ce qui s'est passé, puis tu portes ton père, tu t'oublies toi, bon ça c'est toi, hein, tes mécanismes, comment tu fonctionnes en fonction de ta personnalité et de tes outils. Et donc je sens vraiment au fond de moi qu'il y a un truc qu'il faut rééquilibrer, et Audrey qui à l'époque n'est pas du tout prêt à avoir un enfant, ça fait 1 an et demi qu'on est ensemble.
Ouais.
Et je lui dis, écoute, de toute façon, mon corps, là, ça fait des mois que j'ai plus mes règles, j'ai perdu 10 kilos, on essaye, et puis quand mon corps sera prêt, voilà, si t'es ok. Puis il y avait cette thérapeute qu'on allait voir, puisque j'avais besoin d'être accompagnée suite au décès de ma mère, parce que c'était très très compliqué dans mon corps,
ouais.
Dans ma tête, dans mon cœur, enfin dans mon être, quoi. Ouais. Et donc elle dit un jour, lui qui a beaucoup de peur, qui est très cristallisé sur la peur de l'argent et tout ça, elle dit, mais vous savez, les premières années, un enfant, ça coûte rien, en fait. C'est pas là le problème. Puis cette place, si vous attendez que ce soit dans un contexte idéal, vous trouverez jamais de contexte idéal. Le contexte idéal, vous allez le créer, et encore idéal, voilà. C'est aléatoire. Ce contexte, vous allez le créer, vous avez 9 mois pour le créer. Donc c'est l'enfant qui va changer l'environnement, et pas l'environnement qui doit changer pour accueillir l'enfant. Donc on sort de là, je me revois et je me dis, lui il est hyper influençable. Le mec me dit, bon ben c'est bon, on peut faire un enfant alors. Et j'étais là dans ma tête, putain j'ai de la chance qu'elle soit d'accord avec moi la gonzesse quoi, qu'elle ait su convaincre. Mais j'étais là, bah vas-y, Inch'Allah, hein. Donc on fait péter le stérilet. Et donc il y a ce jour où on fait l'amour en se disant... bah là, on essaye vraiment, quoi. Et c'est pas pareil que les autres fois, quand même. Et en fait, c'était one shot, quoi.
Direct.
Je suis tombée enceinte direct.
Tu l'as su tout de suite ?
Ouais, j'ai rien gardé, j'étais pas capable. Bah, j'ai tenu 3 jours.
Comment t'as vécu cette nouvelle ?
Oh, bah moi, j'y croyais pas, parce qu'en fait, c'est pareil. Tant que t'as pas un écrit, t'as toujours le doute, en fait, quand le truc, il est pas acté. Je sais pas comment te dire. Il a fallu vraiment, même si le test était positif, même si j'avais plus mes règles, que j'avais les symptômes, il fallait quand même que je sois devant l'écran avec l'échographie, le bébé et son cœur qui bat dans les haut-parleurs pour me dire « Ah ouais, c'est pour de vrai
ouais. ».
Genre, j'avais la sensation, putain, j'ai réussi l'examen, quoi. J'ai réussi. Ouais. Tu sais, en fait, ça faisait des semaines qu'on voyait tous nos potes qui nous annonçaient, putain, je suis enceinte. Et j'étais là, mais... Il y en avait qui avaient accouché, même. Et je me disais, putain, mais c'est quand mon tour, quoi? Est-ce que moi aussi, je vais pouvoir y arriver? Parce que t'entends aussi des gens qui n'y arrivent pas.
Mm.
Autour de moi, j'avais aussi des copines pour qui c'était très compliqué. Parce que j'avais la trentaine à ce moment-là, donc c'est quand même une période où les gens commencent de plus en plus à avoir des enfants. En tout cas, ton entourage évolue, change. Et donc, ouais, je me souviens de ce moment où je reçois le test, les résultats sur mon téléphone. Je suis à la maison, il y a Audrey qui est, j'étais là, non. Donc j'envoie le truc à ma cousine. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est vrai ? Parce que j'avais pas fait le test de grossesse qu'on achète. J'avais été faire la prise de sang avec ma gynécologue. Et non, ma cousine était « Ah mon Dieu, t'es enceinte !» J'étais là « Mais non !» Et puis j'ai gardé ça pour moi et je me disais « Mon mec, lui, il est tellement à l'ouest, il va rien capter. » Et je partais pour le week-end pour le boulot. Donc j'ai gardé ça pour moi, enfin de lui en tout cas, parce qu'après évidemment, tous les gens que j'ai rencontrés pendant le week-end, j'ai dit « Putain, je suis enceinte les gars !»« Ah ouais, et ton mec, il a réagi comment ?»« Je lui ai pas dit !» Ils étaient là « Non mais t'es folle toi, pourquoi tu nous le dis à nous ?»« Tu sais, c'est à lui que tu devrais le dire en premier. » »« Non, parce que c'est bientôt la Saint-Valentin, alors j'essaie de garder la date. »
Ah ouais.
Bon, en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. Je suis rentrée le week-end, ils étaient en train de faire les travaux avec mon père. Je revois mon père sur l'échelle, Audric était en train de faire je sais pas quoi dans la cuisine. Moi, j'étais là, ouais, je suis super fatiguée, je vais aller faire une sieste. Mais putain, t'as rien foutu, tu peux pas nous aider à refaire l'appartement, tu viens juste de rentrer, c'est bon. Et là, je me mets à pleurer. Je peux pas vous aider, je suis fatiguée. Oh, mais là, qu'est-ce qu'il y a et tout. Mais je suis enceinte. Et là, mon mec, il me regarde, il me dit, mais n'importe quoi, tu m'as dit que t'avais eu tes règles. J'étais là, oui, mais j'ai menti, c'était pour le suspense. Et mon père sur son échelle. De toute façon, tant qu'on voit pas le ventre, j'y crois pas. Ok, super. Et donc, mon mec, il était « Ah mais non, mais c'est pas possible, tu m'as dit que t'avais tes règles !» Je t'ai dit que je t'avais menti. C'était une stratégie. Donc, c'était dingue.
Ouais.
Et puis, l'échographie où tu vois la confirmation, quoi, que c'est bien réel, quoi.
Et alors, comment elle s'est passée, cette grossesse ?
Waouh ! Sous quel angle ? Je dirais deux salles, deux ambiances. Mmh. Donc, moi, mon corps et mon fœtus... Extraordinaire.
Ouais.
Extraordinaire. Mais genre, j'ai tellement aimé ça. Voir mon corps changer, accompagner le changement, aller à la piscine, aller au yoga, préparer son arrivée, faire des achats, faire les lessives, son armoire, sa chambre, tout ça là, entre moi et le bébé, merveilleux. Mon mec un peu relou, et la belle famille, la famille, l'entourage, au secours quoi.
Ouais.
Au secours. Donc déjà, quand on a annoncé, pour recontextualiser, je perds ma mère 5 mois avant de tomber enceinte. Donc ça fait des mois qu'on porte un truc pas cool, que les gens, à chaque fois qu'ils me croient, c'est « Oh, c'est là qu'on est... » Enfin, pas « Oh, c'est triste, on est désolé, la tête sur le côté. Ah ben c'est surtout pour ton père que ça doit être dur. » Puis t'es là « Ouais, je sais pas. » La médaille, la compétition, qui en chie le plus, je sais pas. Refermer dans une valise la vie de cette personne qui ne sera plus, donc fermer la boutique de ma mère qui était photographe, qui avait une boutique, les gens qui viennent, qui négocient les prix des photos alors que t'as envie d'envoyer chier la terre entière, puis les maladresses, puis les gens qui oublient, puis les gens qui sont là, ah c'est bon, elle va encore nous parler de sa mère, enfin tout ouais. Ça là, compliqué, voilà, donc tu tombes enceinte et enfin tu peux annoncer une bonne nouvelle, tu crois. Et là, la première réaction de la belle-mère, c'est genre « Oui, enfin bon, tant que t'as pas fait l'écho, t'en sais rien. Moi, ma première écho, l'œuf, il était vide. »
Oh là là.
Au secours, quoi. La nana a dit ça. Donc t'es là, ok. Ensuite, je me souviens, on avait la première écho, je crois, le 14 mars. Et là, on est au resto le 7 mars pour l'anniversaire de mon mec. Et sa mère qui dit « Oh là là, mais il va pas manquer sa formation, parce qu'il était en formation à l'époque. Il va pas manquer sa formation pour venir t'accompagner à l'écho quand même. Ça va, moi, la première écho, j'y suis allée toute seule, quoi. Comme une grande, quoi. »
Ouais, un peu intrusif, quoi.
Mais de ouf ouais. Ah, un peu, t'as pas idée à quel point. Elle a même presque orchestré mon accouchement. Enfin, bon, bref. Et donc, mon mec a failli ne pas venir. Et j'étais là, mais en fait, si tu viens, gars, imagine si l'œuf est vide. Je viens de vivre la mort de ma mère, mec. Ouais. Je ne suis pas prêt à vivre ça, quoi.
Ouais.
Ah oui, c'est vrai. Puis je nous vois comme deux cons devant l'échographie, je le vois presque en pleurs, je lui dis « Mais t'imagines que ta mère, elle a failli t'enlever ça, quoi. Arrête d'écouter les autres, quoi. » Et pendant toute la grossesse, ça a été ça, ça a été nos rêves, nos projets, tu vois, plein de lumière, peut-être de naïveté. Et bien sûr, on le sait que quand tu fais des plans et que t'es enceinte, ça sera jamais à la hauteur de la réalité. Enfin non, je veux dire l'inverse. La réalité ne sera jamais à la hauteur de ça, et puis il y a... ce que tu crois savoir, ce que tu crois qui va se passer, et putain, il y a ce qui se passe pour de vrai, qui n'a rien à voir, et c'est merveilleux tout autant, tu vois, presque encore mieux. Mais laissez-nous rêver, en fait.
Ouais.
Et là, c'était « Ah, mais vous pourrez jamais !»« Ah, mais... »
Ouais, plombant.
De ouf. Mais là, vous allez en faire un enfant, il va rien comprendre, dyslexique, donc j'étais là, bah, on va voir. Mais non, mais la meuf, elle rêve. Moi, je rêve, je m'entends aujourd'hui. Je me dis, mais qu'est-ce que c'était complètement là, ouais, cette meuf. Donc, moi, je vais lui parler en anglais, puis Audrey qui parlera en français, puis toi, t'es allemande, donc si tu veux, tu peux lui parler en allemand. Tu parles, on a eu le temps de gérer ça, sans déconner. Et donc, elle était, ah oui, mais l'enfant, il va être bête, il comprendra plus rien, et puis les écrans, c'est pareil, vous pourrez pas tout contrôler. Putain, mais je te dis pas qu'on a envie de le maltraiter, je te dis qu'on a envie de le protéger au maximum, genre, aide-nous. Ouais. Plutôt que de tout saboter comme ça, genre vous n'y arriverez jamais. Puis pareil, l'accouchement, je voulais accoucher sans péridurale.
Ah oui, c'est ce que j'allais te demander.
Oh là là, putain, mon projet d'accouchement, tout le monde qui y va de son commentaire, gna gna gna. Alors à chaque fois, je me baladais avec elle et que je sais pas pourquoi je vais me balader avec elle. D'ailleurs, tu te dis, t'es sadomaso quoi. Donc je me balade avec elle et puis je suis toute contente avec mon gros bidou et tout. Sauf qu'elle, c'est madame qui veut prendre toute la place, tu vois. Donc elle se mettait devant moi et les gens. Ah oui, non, mais de toute façon, c'est prévu pour quand ? Donc c'est elle qui répondait. Donc c'est un garçon, mon fils a fait un garçon. Ok, je n'existe pas. Et c'est prévu du coup pour le 23 octobre, mais c'est hors de question, parce qu'en plus moi c'est le week-end où je suis sur mon concours hippique à Pau, donc hors de question, ça marche pas du tout avec mon emploi du temps. Tu te dis mais comment tu peux tenir des propos comme ça, meuf, en fait ça n'a rien à voir avec toi, mais ok. Et puis si elle accouche le 23, ça va être un pervers narcissique, les scorpions, c'est hors de question, moi j'en ai déjà eu un. Putain, mais pourquoi tu ramènes mon histoire à toi et que en plus tu l'enrobes de merde, quoi. Enfin, ouais. Et donc, on se retrouve le 22 où je déclenche des contractions à 4h du mat hein, en me disant ça y est, trop bien, j'accouche le 22, ouf. Alors que ça fait déjà 15 jours que je me dis putain, faut que j'accouche avant.
Mais donc t'avais prévu un accouchement physiologique, ouais. Tu t'étais préparée pendant la grossesse conséquence
Tout. Sophro, machin, autonomie. Ouais. Tout ce qu'il faut, tout ce que je peux, visualisation, gna gna gna, et puis c'est comme passer le permis de conduire alors que t'as jamais touché une voiture, quoi. Ouais. T'as la théorie, mais alors le jour J, au secours, quoi.
Ouais.
Donc rien ne se passe comme prévu, évidemment. C'est d'ailleurs, qu'on se le dise, quoi. Il y a plus de chances que ça se passe pas du tout comme c'est prévu que l'inverse, mais bon. Donc déjà, il y en avait plein qui étaient là, mais pourquoi tu veux pas de péridurale, n'importe quoi, ça existe pour des raisons. Je sais pas, j'ai vu que c'était pas bien pour le bébé, donc je sais que je vais en chier, mais c'est pour le bébé, ouais, surtout. C'est pas pour faire la belle, quoi. Enfin, tu vois, je suis en compétition avec personne, hein. C'est juste moi-même. Tu me poses la question, je te réponds. Après, c'est mon choix intime. Ah, mais tu tiendras jamais, c'est horrible. Merci. Pourquoi ? Et même des sages-femmes hein, qui m'avaient dit ça, sympa. Et donc le jour J, j'ai des contractions sans douleur. Donc là, je me dis, ah, trop bien. Bon, évidemment, encore une fois, je rêve. Je vais faire partie de ces gens, parce que j'avais une copine à ma mère qui avait accouché sans douleur.
Okay.
Et je me disais, trop bien, c'est rare, mais ça arrive. Je vais être cette personne, évidemment. Et donc le samedi matin, contraction, on se pointe à l'hôpital, après avoir déjeuné, c'est genre les gonzes qui prennent trop leur temps, la valise bien faite et tout. Oh, je vais prendre une douche. Et là, j'arrive comme une fleur, on me dit, ah, vu la tronche que vous avez, je pense que vous n'êtes pas prête d'accoucher, madame. Ah bon, mais je souffre. Non, repartez chez vous, on n'a pas la place, donc c'est pas prêt. À mon avis, c'est pas le bon moment. Donc on repart, puis là, on fait une petite sieste, puisque je suis réveillée depuis 4 heures, et je suis réveillée par la douleur.
Ah.
Et là, tu prends la dimension du bordel, où tu deviens genre hystérique pendant 45 secondes, t'es à terre comme un animal en train de tordre ton corps comme t'as jamais cru que c'était possible et que tu comprends pas pourquoi histoire comme ça, c'est pas toi qui contrôle, tu vois, c'est la douleur. Et dès que c'est terminé, donc ton mec te regarde genre « What ?» La meuf se transforme en loup-garou et la seconde d'après, c'est tellement jouissif la libération de la douleur que tu exploses de rire et le mec est là « En fait, tu me fais peur, qu'est-ce qui se passe ?» Donc ça dure comme ça pendant 3 heures, on fait le tour du quartier en marchant, les voitures qui ralentissent et lui il est là « Non, mais c'est bon, elle est en train accoucher, tout va bien. Genre, qu'est-ce que vous l'avez fait? Pourquoi elle est dans cet état? Pourquoi elle est par terre? Enfin, bref, le truc, n'importe quoi. Donc, on décide de retourner à l'hôpital. Et là, je suis accompagnée donc par des sages-femmes incroyables. On fait de l'acupuncture, des trucs. Je suis là avec mes aiguilles, mais je souffre, tu vois. Donc, je respire, puis j'essaie de me rappeler les exercices de sophrologie. Donc, je la visualise comme un rideau. Tu inspires, et puis tu relâches tout en poussant. Enfin, bon, ok.
T'étais dans une salle nature ?
Oui,
ouais.
J'étais dans une salle nature avec le ballon. Et donc après les nanas s'en vont et on passe à l'équipe de nuit qui était pour le coup carrément dark, pas du tout sympa, antipathique, ah ouais. Donc j'étais là, ah non mais madame, en fait on va vous renvoyer chez vous, comment ça, non attends, ça va ou quoi, parce qu'en fait moi je suis venue pour accoucher, là je suis là depuis tout à l'heure, c'est bon j'ai un lit, je ne pars plus, oui mais là en fait c'est du faux travail quoi, vous êtes même pas dilatée à 1 quoi.
Aïe, aïe, aïe.
Attends, quand tu dis faux travail, ça veut dire quoi? Que j'ai inventé la douleur? Parce que mon corps, il a bien senti, c'était bien réel. Donc déjà, sors ce terme. Pourquoi ce terme? Ça ne me plaît pas du tout. Ouais. Donc après, là, elle me dit, on va vous donner quelque chose pour calmer la douleur. On va vous donner de la morphine. Donc moi j'ai peur, je suis là, non mais de la morphine quoi. Non, ça va faire... Enfin, je dis, c'est pas bon pour le bébé et tout. Ah, parce que vous croyez qu'on va faire du mal au fœtus. Là, mon mec en remet une couche, qu'envoie des textos avec son père, parce qu'on communiquait avec la famille par WhatsApp. J'avais eu la super idée d'ouvrir un groupe pour que tout le monde puisse vivre l'accouchement, tu vois, qu'on me reproche pas de les mettre de côté, je sais pas pourquoi. Bon, bref, plutôt que de préserver ça, tu vois. Et là, le père d'Audrey, qui pense qu'il est gynécologue, qui a une formation de kiné, donc qui n'a rien à voir, lui dit, ouais, bah écoute, là, si elle souffre... parce qu'Audric me voyait souffrir et du coup il était là mais c'est atroce, donc il retranscrit à son père qui interprète, et là son père dit non mais moi je veux parler à la sage-femme, là il faut faire une césarienne en fait.
What?
Donc Audric le dit à la sage-femme qui déjà est brusquée par, tu sais la nana en plus est susceptible, comment ça vous sous-entendez que je peux donner un truc au fœtus qui va pas être bon pour lui, moi je souffre déjà depuis 4h ce matin, enfin non allez midi, donc on est à 21h du soir, 21h, et donc là lui il renchérit en lui disant faut lui faire une césarienne, pourquoi vous lui faites pas une césarienne, vous voyez bien qu'elle souffre. Alors déjà mec je t'explique. Donc elle se braque d'autant plus, elle lui dit non mais vous croyez qu'accoucher c'est pas douloureux en fait, à quel moment? Ouais. Et puis je suis pas vétérinaire, je suis sage-femme, donc je vais pas ouvrir votre femme pour lui sortir le bébé. S'il n'y a pas de raison particulière, non. Donc moi qui suis déjà sous morphine depuis 5 minutes, je suis défoncée. J'étais là, arrête, t'embrouilles pas avec la nana, ma vie est entre ses mains. Si ça se passe mal, on va peut-être mourir avec le bébé. Et enfin bref, un sketch quoi, je me mets à pleurer et tout. J'étais là, mais ça se passe pas du tout comme je voulais un truc sympa. Puis là le bébé il veut pas sortir, mon mec il s'embrouille avec la nana qui a ma vie entre ses mains, ça va pas du tout. Du coup maintenant elle m'a dans le pif. Et t'as, mais vous vouliez pas de péridurale madame. Alors vous souffrez, c'est genre bien fait pour ta ouais. gueule. J'étais là, mais c'est un sketch quoi. Puis là le gars je lui dis bon mon mec, je dis écoute parce qu'il est épileptique, ah mais par contre toi si tu nous fais une crise, en plus t'as pas dormi, c'est le pompon quoi, je peux pas gérer ça là, je vais mourir, ça va pas se passer comme il faut, donc tu rentres et tu vas dormir quoi. Donc je le renvoie à la maison, donc il se casse et mon père vient prendre le relais pour pas me laisser toute seule, tu vois. Mon père il était là, en plus il voulait prendre des photos parce qu'il est photographe, je me suis dit que c'est une bonne façon de d'immortaliser ce merveilleux moment où je devais avoir une tête pas possible. Et là mon père qui est donc en deuil de sa femme et qui depuis un an en chie sa vie, mais genre plus tu ouais. vois, au point où je me suis dit je suis ok avec le fait qu'il meure de chagrin.
Ah ouais, d'accord.
Tellement que je le vois sombrer, et même s'il se suicide presque je lui en veux même pas, tu vois, j'en suis à ce stade quand même hein, de perte d'espoir. Et donc il arrive dans la chambre et je vois sa tête qui ne supporte pas de voir ma tête en souffrance. Donc à partir de ce moment-là, je cache ma souffrance.
Oh là là.
En mode, ah ben non, faut le rassurer le type, tu vois, parce qu'il est mal quoi. Ouais. Genre, alors que c'est mon moment, mais bon, ok. Donc là je prends sur moi, je suis là, non, mais t'inquiète, ça va. Là on bascule dans une baignoire pour essayer de soulager la douleur. Et donc je suis dans la baignoire et ça allège la douleur, mais vraiment, tu vois. Ouais. Mon père, il est en train de dormir dans sur la table d'accouchement. On est tous les deux là dans la chambre nature. Et en fait, comme la morphine, ça assèche de ouf la bouche, je ne fais que boire de l'eau depuis tout à l'heure. Mmh. Et là, j'ai envie de pisser. Mais comme je suis bien dans l'eau et que j'ai moins mal, mais que la douleur est revenue, mais que c'est quand même devenu à nouveau insupportable, tout en sachant en moi que c'est quand même carrément plus supportable que la vraie douleur qui m'attend en sortant de la baignoire, je veux pas sortir.
Ouais.
J'ai envie de pisser, l'eau est devenue froide et j'ai peur de sortir. Et je suis là dans la baignoire en mode, je fais quoi? Alors je peux pas m'endormir, je suis bousculée par les contractions à nouveau, mais qui sont supportables et insupportables. Enfin je sais pas, il y a ce truc qui se passe où j'attends. Et puis à un moment donné je dis ok, l'eau est glacée, j'en peux plus, j'ai trop envie de pisser. Donc là la nana te sort du bain froid et elle te couvre avec un drap. Genre t'as pas une serviette pour te sécher, tu te sèches avec un drap, tu sais, t'es à l'hôpital quoi.
Ouais.
Ah, je suis mal dans mon corps, et puis je suis dit, mais j'en peux plus, pourquoi j'arrive pas à accoucher? Donc je me mets à pleurer, je fais, mais pourtant je pousse! Et là, elle me regarde, elle me fait, pardon? Je dis, mais oui, l'exercice de sophrologie, je visualise le couloir, le col qui s'ouvre, comme si on ouvrait les rideaux sur le théâtre, là, vous savez, et du coup, je souffle, et en soufflant, je pousse. Elle me dit, mais attendez, mais comment ça, vous poussez? Mais ça fait longtemps que vous poussez! Je dis, bah depuis le début. Et là, la meuf, elle me dit, mais ça va pas du tout, vous allez vous faire un œdème au périnée.
Oh là là.
Il faut pas souffler alors que vous avez même pas dilaté à 1.
Ouais.
Là, mon père qui entend ça, putain, mais je t'avais dit avec toutes tes conneries. De toute façon, aujourd'hui, vous préparez l'accouchement alors qu'il faut faire naturel à notre époque. Gna, 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 gna. Il dit, mais en fait, t'es en train de chier ton accouchement. T'as rien compris au cours que t'as foutu, que tu nous as fait chier pendant des mois. Le mec me sort ça.
Oh là là.
Là, je suis trop mal. Genre, je suis brisée. Tu vois, je suis là, putain, j'ai plus la force en fait. Est-ce que. Je veux rentrer chez moi, c'est fini, j'annule. Je veux plus accoucher aujourd'hui, je me casse en fait. Trop complexe, trop compliqué, j'abandonne. Là, la nana lui dit, mais monsieur, vous avez un utérus ? Alors, vous vous taisez.
Ouais, ouais.
Vous ne dites certainement pas ça, qu'elle rate son accouchement. Mais vous sortez, monsieur, quoi.
Ouais.
Et j'étais là, mais merci, dites-lui ta gueule, quoi.
Ouais.
Parce que moi, évidemment, j'étais pas du tout en position de le faire, tu vois. J'étais là, mais il a tellement raison, c'est clair, j'ai fait trop de la merde, j'ai même pas accouché correctement. Donc, je retourne en chambre. Là, ça s'apaise. Je m'endors, genre, je sais pas, 20 minutes. Je suis réveillée à nouveau par l'envie de faire pipi. Et là, les contractions, bref, c'est horrible. Mon père dort sur le siège. Lui, il a l'air de bien dormir, c'est cool. Et là, je dis, péridurale, s'il vous plaît. Ah c'est genre, ah, enfin enfin, vous capitulez. Et oui, mais non, vous êtes toujours pas dilatée, donc il n'y a pas de péridurale.
Ah ouais, rien du tout, rien
que dalle, que dalle. Et enfin, au bout d'une heure, quand le service du matin arrive à 8h, j'ai dilatée à 1, et enfin, je peux recevoir ma péridurale, quoi. Je culpabilise de ouf. Ne pas être en capacité de donner la vie à mon bébé de façon naturelle et de le préserver de la chimie. Donc ça commence déjà comme ça. Et en fait, toute la journée, c'est le bébé est mal placé, la tête est pas en bas. Donc je ne sens plus mes jambes, mais je tortille mes hanches pour le remettre comme il faut. Je m'épuie, ça marche pas. Je suis dilatée à 7.
Mmh.
Et en fait, ça ne dilate plus depuis midi. Je suis à 7. Je m'épuise, j'en peux plus, je pleure. Et là, mon mec, il est genre 21h, il me dit, bah écoute, moi j'ai faim. Ah oui, il arrive le matin, pimpant, je viens prendre le relais. C'est genre à 10h avec les croissants. Le mec, j'ai bien dormi, c'est bon, de toute façon, tu peux partir, c'est bon. Les traits tirés, c'est genre la belle au bois dormant, toute fraîche, et moi au bout du Rolls. Et la nana lui dit, bah non, les croissants, bah non, quoi, elle peut pas bouffer en fait. Donc je suis là, j'ai pas bouffé depuis samedi midi. J'ai très faim, forcément. Et donc. Donc après il m'accompagne comme il peut avec tout ce qu'il est, c'est-à-dire drôle, maladroit, à l'ouest, bref, comme je l'aime. Et en fait le soir, ouais, je vais me prendre un kebab, j'ai un petit creux, tu sais, donc il se barre à 21h. Et là donc je suis vraiment dans les vapes entre deux, à chaque fois que je crois que je dors mais des heures alors qu'il se passe des minutes, là le gars revient et je lui dis « Ah, t'es déjà revenu ?» Il me dit « Mais non, pas du tout, je suis pas partie en fait, je suis dans le couloir, j'ai croisé une sage-femme qui m'a dit qu'il y avait un problème et qu'il fallait que je revienne. »
Ah ouais?
Déjà, tu n'utilises pas le mot problème, mec. what? Problème, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Donc là, la sage-femme revient. Il y a la gynéco qui vient et qui me dit, écoutez, là, c'est plus possible, en fait. Le fœtus est en danger. Vous ne dilatez pas. Et en fait, il pousse sur l'utérus. Vous avez un seul côté qui se dilate sur les deux. Donc, il force. Et vous allez finir par avoir l'utérus qui va lâcher. Et elle me dit, donc là, opération d'urgence, on va faire une césarienne. Et là, putain, deuxième couche de déception, deuxième couche de culpabilité, parce qu'en fait, dans mon corps, je me dis, ouais, merci. Parce qu'en fait, là, j'aurais jamais été capable de pousser.
Ah ouais.
Je suis plus en état, il est 21h, ça fait 21h le dimanche soir. Physiquement, je n'en peux plus. Et donc, on va en salle d'accouchement, on demande d'éteindre les lumières, j'attends que mon conjoint arrive, on commence à m'ouvrir alors qu'il n'est pas encore là. J'ai peur de mourir, je les sens taper sur mon ventre, je les sens me découper. Tu sens qu'il te découpe, t'as pas de douleur, mais tu sens qu'il te découpe. Moi, je sens un truc genre clac, clac, clac. Ouais, affreux. Et puis, je sens tirer, pousser, tu sais, j'ai mon corps qui est comme ça. Je suis derrière le champ avec mes lunettes, le masque sur la bouche, oxygène. Et j'ai juste mon mec qui me tient la tête comme ça, qui me fait des bisous, je pleure, j'ai peur, ça va trop vite. En fait, quand elle arrive, elle me dit, bon, bah, la césarienne, c'est tout de suite, en gros, vous êtes mère dans 20 minutes, quoi.
Ouais.
Là, je lui dis, non, mais attendez, comment ça, what, déjà? Elle dit, comment ça, déjà, vous êtes là depuis hier, quoi? Je fais, oui, mais bon, là, c'est trop rapide, j'ai même pas le temps de pousser, enfin, je suis pas préparée, quoi, c'est trop rapide. Et après, ça s'enchaîne, tac, 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 tac. On sort le bébé, premier cri, et là, on me l'amène. Et là, je vois un truc tout visqueux, dégueulasse. Elle me dit faites-lui un bisou et tu sais j'ai un mouvement de recul genre attends je suis pas prête je connais pas cet être qu'est-ce que c'est tu sais et puis en fait non t'as pas le choix de tes émotions donc elle s'en fout elle me le pose sur le visage et là le bébé plus de son plus de lumière quoi
ouais.
Et là je commence à être prise de panique directe Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il parle plus? Pourquoi il n'y a plus de bruit? Pourquoi il y a... Et là, sa main touche mon visage. Ouais. Et en fait, je comprends que c'est parce qu'il m'a reconnue. Mmh. Et c'est... Ouais, putain, ça faisait longtemps que j'en avais pas pleuré, tu vois. Et ce moment, en fait, c'est magique.
Ouais.
Ça dure 5 secondes. Et après, elle se barre avec.
Mmh.
Et toi, t'es recousue. Et t'attends. Je crois que j'ai attendu 4 heures avant de le voir. Et t'es recousue. Et t'es là, dans cette chambre froide, avec de la lumière, des gens que tu connais pas, aseptisés, et on te recoue. Et tu sais pas ce qui se passe, ils font des trucs avec ton corps, et puis après ils t'emmènent dans la salle de réveil où il y a personne ce soir-là. Je suis toute seule, et j'ai soif, mais je peux pas boire, donc je suis avec mon vaporisateur dans la bouche. 3 gouttes, ah, enfin je peux déglutir. Et j'attends, je suis là, j'ai les yeux qui rivés sur l'entrée, je me dis putain, mais quand est-ce qu'ils arrivent? Je veux le voir, je l'ai pas assez vu, je sais pas à quoi il ressemble, j'ai pas,
ouais,
j'ai pas photographié son visage, tu vois. Et là j'ai mon mec qui arrive en mode docteur Mamour. Le mec dans une confiance genre déconcertante, style, ouais. Le mec, on dirait qu'il est père depuis 10 ans, tu vois, qu'il a déjà 15 enfants. Il est là, il a le bébé dans les bras comme ça, trop fier de lui. Et je suis là, ok. Il va falloir que tu me donnes ton savoir parce que je ne sais pas du tout ce que je dois faire à cet instant. Et donc là, elle me dit, on va ouvrir votre tenue et vous allez faire votre première tétée. Ah bon, parce que là, c'est possible, en fait. Mes seins peuvent donner du lait, d'accord.
T'avais prévu d'allaiter, toi?
Ouais.
Ouais.
Ouais. Ah ouais, j'avais envie, j'avais vraiment très, 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 très envie. Donc je m'étais bien renseignée sur tout un tas de trucs. Bien sûr, hein, encore une fois, la théorie, puisque apparemment, c'est plus compliqué quand t'as une césarienne, donc ça, c'était ma peur aussi. Et en fait, elle pose le bébé sur mon ventre, et là, on dirait un animal, le mec grimpe, hop, 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 il va au sein, et là, pah. Et je crois qu'il tète. Et je suis là, donc même lui connaît mieux le truc que moi. Et là, je suis bluffée.
Ouais.
Je suis émerveillée, remplie d'amour, de joie. C'est vraiment hallucinant ce qui se passe. Et donc, c'est très très émouvant, quoi.
Ouais. Et alors, tes premiers pas en tant que maman, quand t'es rentrée à la maison, est-ce que t'as tout de suite été à l'aise ou...
Le bordel.
Ouais.
Déjà, pour découdre un peu le truc, quelques jours avant, tu te retrouves à la maternité... Mon mec passe la nuit, mais il part direct le lendemain puisqu'il est toujours en formation. Je galère avec la montée de lait, avec le choc post-trauma de l'accouchement, en fait, que j'ai pas du tout conscientisé sur l'instant.
Ouais.
La césarienne m'a traumatisée. Donc je demande qu'une psychologue vienne me voir. La nana vient une première fois, je suis en train d'allaiter, donc elle n'est pas d'accord. Elle me dit « Ah non, mais là ça va pas du tout, moi je vous accompagne pas si vous êtes en train d'allaiter ». Donc, vous pourrez continuer plus tard. Et donc là, je dis, je n'ai aucune certitude puisque c'est la première fois. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. C'est vous qui portez la blouse. Moi, je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas de quoi je parle, mais je sens que ce n'est pas OK,
ouais,
dans mon corps. Donc, je pense que si vous revenez, c'est mieux. Elle revient une deuxième fois le lendemain. Et là, la nana est excédée parce que, à nouveau, l'enfant tète.
Mais non.
Et elle s'en prend à moi en me disant... Mais en fait, là, si vous faites pas d'efforts, moi, j'ai pas que ça à faire, j'ai pas le temps. Je te jure, elle m'a dit ça. Et elle me dit, de toute façon, tant pis. Et donc, je suis là, ok. Donc, en fait, il fallait que je choisisse entre mon besoin mental et mon bébé.
Mm.
Déjà, d'office, on me demande de choisir, quoi. Et là, pour le coup, je choisis mon bébé.
Et c'était quoi sa raison
Je sais pas, elle voulait pas m'accompagner pendant que j'allaitais. Je sais pas quelle est son histoire, je sais pas qu'est-ce que je renvoyais, je sais pas, tu vois. Aujourd'hui, je suis en capacité de me dire peut-être qu'elle avait un problème avec l'allaitement ou elle était de mauvaise humeur, enfin j'en sais rien, tu vois, mais la nana ne voulait pas et du coup, je n'ai pas pu être accompagnée. Ensuite, il y a la sage-femme qui arrive, J+2 ou J+3, alors que t'as les seins comme des pastèques, t'as ces seins dont t'as toujours rêvé d'avoir, mais que ça vient avec la douleur et que t'es pas ok avec ça, t'es là, putain, c'est ça l'envers de la médaille. Et donc, tu te dis, putain, l'enfant n'arrive même pas à téter tellement que tout est sous tension, on dirait que ça va péter, donc tu masses, t'as des douleurs pas possibles, tu sais pas du tout comment il faut s'y prendre, comment il faut faire et tout. Et là, t'as une sage-femme qui rentre dans la chambre et qui pue la clope. À 10 000 et qui te dit « Ah non mais là, votre bébé, faut lui donner un biberon, hein, vous voyez bien qu'il fait que chialer, qu'il crève la dalle
!»
Alors je sais pas si elle a dit « chialer », mais je te jure qu'elle a dit « crève la dalle ». Et j'étais là, pareil, je sens que tu sais de quoi tu parles, effectivement, le bébé c'est chaud, peut-être qu'il prend pas du poids comme il faut, enfin, plein de peur, mais dans mon corps c'est « dégage avec ton biberon, meuf !» Et j'écoute, je sais pas par quelle magie, tu vois, avec le recul, je me dis dans l'état en vrac et l'incertitude, le flou artistique le plus total dans lequel j'étais, je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir.
Ouais.
Et j'ai dit non. Et elle est repartie. Et puis il y a quelqu'un d'hyper bienveillant qui a passé une heure avec moi à masser mes nibards pour que l'enfant puisse téter. Tu te dis, cette scène est improbable. Enfin, tu sais, on était là toutes les deux en train de masser mon sein pour que l'enfant puisse le prendre. Enfin, c'était trop chelou. De toute façon, ton corps ne t'appartient plus à ce moment-là. D'ailleurs, ton corps est un vaisseau ou je sais pas. Enfin, c'est très bizarre après la relation que tu as avec ton corps. Quoi. Mmh. Comment te le réapproprier alors que pendant... Bah déjà, t'as tous les touchés pendant les 42 heures que j'ai eu d'accouchement, où il y en a qui te demandent la permission et il y en a qui ne te demandent pas du tout la permission. T'as mal, c'est pas agréable, puis c'est après t'es ouverte, ton corps est complètement malmené, et après il faut quand même que t'arrives à te réunir avec ce corps. Puis il y a eu quand même le moment où il y avait ma belle-famille qui était dans la chambre avec mon père. Ils sont venus voir le bébé, c'est le lendemain de l'accouchement, ils voulaient être là tout de suite. Puis il y a une sage-femme qui rentre et qui dit « Écoutez, j'ai besoin de voir la maman, est-ce que vous voulez bien attendre dehors s'il vous plaît ?»« Oh là là, quand même !» La belle-mère qui, tu sais, qui est pas... genre, oh, fait chier, on est venu, pas pour se faire foutre dehors. Donc elle les met dans le couloir et là elle me dit « Ça fait combien de temps que vous avez pas fait pipi, madame ?»« Ah ouais ?»« Ah bah écoute, je me suis pas posé cette question, ouais. Vous faites bien de la poser, je ne sais pas. »« Ah, bah il y a un problème là, vous avez essayé de faire pipi ?»« Non ?»« Eh bah allez-y, vous me dites. » Et là t'arrives sur les toilettes, t'as envie de faire pipi, mais ça marche pas. Ça ne marche pas, t'es déconnecté. Tu sais pas pourquoi, ça ne fonctionne pas. Donc là, c'est hyper bizarre, tu te dis, ok, il y a un problème là. Donc on m'a sondée. En fait, elle est partie chercher le matériel pour me sonder. Et quand elle est revenue pour me sonder, la belle-mère a toqué et rentrée. Et elle a dit, vous pouvez revenir s'il vous plaît, on en a marre d'entendre dans le couloir, moi j'ai autre chose à faire.
Oh là là.
Elle a foutu dehors l'infirmière qui était venue me sonder.
Ah, elle est sortie du coup, l'infirmière.
Ouais.
Ouais, d'accord.
On dit au revoir au bébé, puis vous avez qu'à revenir dans un quart d'heure. Hallucinant. Donc en fait, on t'explique que toi, tu n'as plus d'importance puisque le bébé est là et que c'est tout ce qui compte. Donc ça, je pense que ça laisse des traces. Et donc après, j'arrive à la maison. Je n'ai jamais changé le bébé toute seule puisque j'étais accompagnée à chaque fois vu que j'avais subi la césarienne. Et en fait, je suis terrorisée.
Ouais. Donc, tu t'es remise de ta césarienne déjà physiquement ?
Ouf ! Tu veux dire aujourd'hui ? 6 ans plus tard, oui. Sinon, non, ça a pris, je pense que ça a pris 3-4 mois, ouais.
Okay.
Pour que ça soit plus douloureux, je pense 1 mois, et je crois bien 3 mois pour...
Ouais, donc t'arrives à la maison, t'es encore endolorie.
Oui, et puis j'ai peur, je suis fatiguée, j'ai mal au sein... j'ai des crevasses, j'arrive pas, j'ai pas de confiance, je sais pas exactement si je sais bien allaiter, enfin j'ai besoin d'aide quoi.
Ouais.
Sauf qu'il y a personne. Mmh. La journée, je suis seule. Et je sais même pas comment lui changer une couche quand on m'a accompagnée une fois, deux fois, tu vois. Et en fait, c'était mon mec qui faisait tout. Moi, je sais pas donner le bain, donc j'attends le soir. Et c'est lui qui le fait. Et en fait, pendant, je crois, les 2-3 premières semaines, je ne lui fais pas le bain sans mon mec parce que j'ai peur quoi.
Mmh.
Et mes journées sont. Des interruptions d'allaitement toutes les 2 heures. Donc on est quand même sur une fréquence bien intense. Et quand l'enfant a fini d'allaiter, quand mon fils a fini d'allaiter, ben faut faire à manger, pour moi, hein, faire pipi, me doucher, faire les lessives. Et en fait, j'ai le temps de rien. Et vraiment, les 3 premiers mois, c'est ça où... ma journée est rythmée par, à un moment donné, ça se stabilise un peu, par 8 tétés, quoi.
Ouais.
Je sors de tétés, du coup, lui, il fait caca, je le change. Alors, c'était difficile, mais moi, je suis hyper heureuse dans tout ça, en fait.
Mmh.
Je suis hyper heureuse. Même si je sais pas comment ça marche, comment il faut faire, même si j'ai l'impression de faire des erreurs, même si je me retrouve avec de la merde et de la pisse partout sur moi. Et que c'est drôle, et que des fois le bébé il pleure parce qu'il faut que son estomac se mette en place, et que quand il pleure, je pleure parce que je sais pas comment faire, je suis désespérée, enfin c'est hyper paniquant, je suis explosée, puisque mon mec est toujours épileptique, donc lui il peut pas être là la nuit et il n'est pas là la journée, donc je suis épuisée, mais je suis heureuse de vivre ça, je suis profondément heureuse de vivre ça. Mais c'est vrai qu'un peu d'aide, ça aurait pas été mal quoi.
Ouais.
Parce que là, on habite au premier étage de la villa familiale, et du coup les gens viennent nous voir. Tout le monde veut voir le bébé.
Mmh.
Et moi, je les accueille en pyjama, la cup à la wall again, et les mecs s'en foutent.
Ouais.
Ils sont là, ils ont fait de la route, ils veulent voir le bébé. Et puis, ils ont des cadeaux à lui remettre. Et moi, je veux pas qu'ils touchent mon bébé. Et ils font trop de bruit. Et moi, je suis fatiguée. Et puis, au bout d'une heure, je veux qu'ils se barrent. Mais les mecs se barrent pas, quoi. Et tu te dis, putain, mais... Est-ce que quelqu'un va leur dire « Ouais, mais quand même, chérie, fais un effort. C'est des cousins. Mais ils voient quoi ?» Le mec, le gosse, il dort, il veut voir personne, il s'en fout, il fait dodo, il a les yeux fermés.
Personne t'a proposé de l'aide.
Peu, que dalle. Ouais. À part la belle-mère qui venait en mode « Oh là là, je sais pas comment tu fais. Hein, moi, franchement, 2 semaines à la maison, c'est bon, quoi. Hein, 2 semaines ou 2 mois, ah non, les couches, j'avais besoin de stimulation intellectuelle, quoi. Parce que stimulation cérébrale. Ah, c'est bon, pipi, caca, ça va, quoi, à un moment donné. Hein. » J'étais là, merci de décrire mon quotidien avec autant de beauté.
Ouais. Et comment toi tu vis le fait à ce moment-là de plus avoir ta maman, de tout ce que t'as vécu aussi plus jeune?
Ah, tu te prends un boomerang dans la tronche.
Ouais.
Tu te rends compte qu'en fait il y a plein de choses dont t'as manqué, d'amour, de disponibilité, de bienveillance. Moi j'ai été mise chez la nounou 3 semaines parce que mes parents travaillaient, puis je me dis ma mère elle a toujours allaité, tu sais, j'ai des photos d'allaitement et tout ça, mais en fait ma mère elle m'a allaité 3 semaines quoi, puisqu'en fait après elle m'a mis chez la nounou. Et puis quand je pose des questions à mon père il a occulté, il se rappelle pas et puis il aime pas trop parler de ma mère qui est morte. Donc je suis toute seule avec mes questions, j'ai pas de réponse et oui j'ai un énorme chagrin bien sûr.
Ouais. Est-ce que t'as peur de pas créer le lien comme tes parents n'ont pas créé le lien avec toi plus
jeune? C'est impossible.
Ouais.
Impossible.
T'as pas ressenti du tout.
À aucun moment.
Ouais, au contraire.
Ah ouais. Ouais, moi mon fils c'est l'être que j'aime le plus au monde. Et c'est ce qui m'a tenue. Hein.
Ouais.
De le voir le matin, je me levais, je voyais sa tête, mais mon cœur était full d'amour et de joie. Et les moments qu'on avait tous les deux, même si j'étais épuisée en détresse psychologique et émotionnelle, je me levais, j'étais là, Alain, mon bébé, je chantais, j'étais avec mon chat, mon fils dans la maison, il y avait du soleil, enfin c'était en octobre, mais il y avait du soleil, et on était bien quoi,
ouais.
On était bien, et puis mon mec quand il arrivait le soir, j'étais trop heureuse qu'il soit là, mais après il y avait, oh là là, c'est bon, elle peut le changer, elle travaille pas, toi t'es en formation, et en fait tout le monde foutait la merde à l'extérieur quoi, et lui il était là, oui bah c'est vrai quand même, ma mère elle a raison, on va pas le garder en co-dodo pendant des mois, putain mais qu'est-ce qu'elle fout là quoi, elle a pas à donner son avis quoi. Mais lui, il était hyper influençable, puisque sa mère a 3 enfants. Et que moi, j'en ai qu'un. Je sais pas de quoi je parle.
Ouais.
En plus, je suis pas très bien, tu comprends. Je suis un peu en dépression et tout. Et ça me rendait folle, quoi.
Ouais.
Il faut pas faire comme ça. Et comment ça, tu le laisses par terre comme un chien par terre? Bah, en fait, j'ai lu que c'était bien pour la motricité, quoi. Ah ouais, par terre, pauvre gosse. Ah, c'est pas un peu d'écran, là, qui a pas lui faire du mal? Bah, si. Et moi, tu sais, c'était décuplé en moi. J'étais, attends, tu mets un écran, son cerveau va fondre, il va devenir débile. Tu sais, le truc, déjà, c'est pas bon, mais dans mon esprit, c'était genre, le diable, quoi. Et ouais, c'était. Non, c'était compliqué pour ça, tu vois. Et encore une fois, lui et moi, c'était magique, ça, ce lien. Je pense que.
Ouais.
J'ai jamais eu peur, quoi. Par contre, j'avais peur vraiment d'être une mauvaise mère pour lui.
Ouais.
De pas être solide. Tu vois, quand je craquais, une patience avec lui que je me serais jamais cru capable. Tu vois, je l'ai accompagné pendant des heures. Mais vraiment, quand il est passé du dos au ventre, et qu'il était sur le ventre, et qu'il paniquait à cause de la respiration, je le remettais sur le dos, je l'accompagnais, je le rassurais. Puis, il avait envie d'aller sur le ventre, donc il se remettait sur le ventre. Je disais, vas-y mon bébé, tu vas voir, c'est normal, les poumons et tout, tu vas voir, t'inquiète et tout. C'est normal mon bébé, je le rassurais, on respirait ensemble, puis... Hop, je remettais sur le dos pour... Et ça, pendant des heures.
Ouais.
Monter une marche chez mon père, pareil, pendant des heures. Chaque étape et tout, j'étais... Je veux dire, en tant qu'hypersensible, aujourd'hui, pour moi, entendre un enfant pleurer, c'est très compliqué. Ça a toujours été très compliqué de l'entendre pleurer dans la douche, qui est un endroit qui est quand même... T'sais, les bruits sont décuplés et tout ça, c'est très compliqué pour moi. Mais par contre, je me rends compte avec le recul que pendant les 2 premières années, j'ai tout supporté. Ne pas manger, ne pas faire pipi pendant des heures, ne pas dormir, manger froid, les cris, la douleur des seins, la fatigue, l'utérus qui se remet en place, les règles qui reviennent, enfin, mais sans douleur. Enfin, je veux dire, non, c'est pas ça, parce qu'évidemment, je souffrais de le martyr dans mon corps sur tout un tas de choses, mais c'était carrément supportable. Le mental était là, et la patience vraiment inébranlable.
Ouais. Et alors, à quel moment t'as mis le mot de burn-out maternel sur...
C'est une nana qui l'a fait pour moi,
ouais.
Une professionnelle.
Au bout de combien de temps?
2 ans.
Ok.
Je ramène... Donc, je suis séparée du père de mon fils depuis juillet. Sa famille est à la maison.
Ah oui, donc vous vous séparez entre-temps?
Ouais. On se sépare. On se sépare pendant 3 mois. Et en fait... Enfin, on est en froid. On n'est pas séparés parce qu'on vit au même endroit, mais on est en froid. Et en fait, son père est là, sa sœur est là. Ils rentrent dans la maison sans frapper, ils font du bruit, ils prennent le bébé, truc, machin. Enfin, moi, je sens en fait mon territoire envahi par l'ennemi et je me sens vraiment très, très vulnérable. Et là, il y a ce week-end où en fait, je suis allée emmener mon fils au bébé nageur. J'ai dit à sa sœur que je voulais pas qu'elle vienne le matin parce que moi, je sais que je rentre, il est midi, c'est chaud, le bébé va avoir faim tout de suite, il faut que je le change, machin. Enfin, tu sais, je suis dans mon emploi du temps stressant, mais qui est à peu près calé. Je sais que c'est un peu border, mais ça va le faire. Mais par contre, faut pas qu'il y ait un grain de sable qui vienne se foutre dans les rouages parce que sinon, il y a tout qui pète. Ouais. Et là, je sens sur le chemin du retour déjà que ça va être le cas. Que sa sœur va se pointer, qu'elle respectera pas ma décision. Donc, je suis déjà dans un état émotionnel compliqué. Et là, ça se réalise. J'arrive à aller là. Et en fait, je contourne, je rentre par l'autre côté de la maison. Et elle fait « Coucou !» Et je fais de la main, genre « Non, en fait. » Là, je vais faire à manger au gamin, au bébé. Donc, je rentre et je ferme la porte. Et je m'installe à table et je pleure parce que je sais que ça va mal se passer, tu vois. Et qu'en fait, je lui ai fait non de la main, mais elle était là « Noakin !» C'est genre déjà, je te respecte pas, meuf, tu me fais non, mais moi je te respecte pas, je fais ce que je veux. Et donc là, je suis vraiment dans un espèce de tourbillon émotionnel où ça déborde, donc je donne à manger à mon bébé, mais je n'ai aucune patience. Évidemment, le bébé le sent, donc il n'arrive pas à manger. Je suis là, s'il te plaît, aide-moi, mon cœur mange, parce que là, ça va pas du tout, ça va pas du tout. Le beau-père rentre dans la maison. Ouais, tu te prends pour qui ? D'où tu nous fous dehors ? C'est pas chez toi ici, c'est chez mon fils. J'ai le droit de voir le bébé quand j'en ai envie, c'est pas toi qui décide. Donc là, ça part dans les tours.
Ouais.
Je me mets à pleurer, je me mets à hurler. Le beau-père me hurle dessus. Je suis choquée. J'ai mon bébé qui est sur son siège et qui pleure. Mon beau-père ne m'a jamais parlé comme ça. C'est quelqu'un qui est très autoritaire, mais jamais il m'a parlé comme ça. Je tremble, je sors de la maison. Mon mec est à l'étage en train de bosser, je hurle. Donc, tu viens ici, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tu sais, genre, qu'est-ce que tu me veux ? Genre, il se met par la balustrade, là. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Qu'est-ce que t'as foutu ? Qu'est-ce que tu fais chier, quoi ? Tu vois, le truc horrible. Et je lui dis, mais en fait, il y a ton père qui vient de me dire, ferme ta gueule, j'ai besoin de toi, là. Qu'est-ce que tu lui as fait pour le mener à bout ? Non, mais le cauchemar, quoi. Donc là, il descend. Et je vais maintenant, vous sortez de chez moi là. Vous sortez de chez moi parce qu'il va se passer un truc là. Je vais péter un câble en fait. Je hurle, je pète un câble de ouf. Donc ils sortent, je m'enferme ma clé, j'appelle la police. Parce qu'en fait, le beau-père me dit en fait, nous on part pas. C'est pas toi qui commande là, madame. C'est pas toi qui décide, ok. Si ma fille elle a envie de voir son neveu, elle a le droit. Enfin, moi j'étais folle. Donc là, je prends mon bébé, j'essaie de le coucher et je pleure. Je suis là, putain, mais je vais faire quoi? Et là, je sens la détresse, mais genre. Donc je demande de l'aide. Et là. Donc je laisse le bébé qui pleure dans le lit, je sors, et il y a la police qui arrive, et là j'ai deux mecs qui discutent avec mon beau-père et mon ex. Enfin, bon, bref, à ce moment-là, c'est mon mec, on sait pas, on est en froid. Et les trois, et les quatre, ils sont là. Enfin, mon beau-père qui dit, ouais, vous avez vu dans lequel état elle est, vous voyez bien qu'elle est pas du tout en capacité de s'occuper de son enfant. Et je sais qu'il a raison, mais je sais que c'est eux qui ont provoqué ça. Et je suis là, mais en fait, vous pouvez m'aider, s'il vous plaît. Je voudrais juste qu'il sorte pour pouvoir me reposer et être apaisée avec mon fils. Moi, je voulais juste rentrer chez moi et donner à manger à mon fils. Et il respecte rien, en fait. Ouais, mais regardez là, vous avez vu comme elle est folle. Et genre, les policiers, ils étaient là, bon, madame, va falloir vous calmer, quoi. Ouais. Et tout le monde me juge et je me sens tellement seule. Ouais. Et cette scène, elle était, mais. Oh, je te jure, j'en ai fait des cauchemars, mais pendant tellement longtemps. Et ma belle-sœur qui rigole et qui se barre, tu sais, genre, regarde d'espèce de folle, tu sais, qui se carapate, là, genre, oh, bah, j'ai provoqué ça, maintenant, je laisse la merde. Mmh. Et personne s'est jamais excusé, tu vois, et c'était en 2019. Et tu te dis, mais comment vous pouvez faire vivre ça aux gens, quoi ? J'avais juste besoin qu'on respecte mes limites, en fait. Et donc, après, finalement, ils partent, convaincus que je suis une barjot, de toute façon, ils me laissent avec le bébé, et là, je dors, et on est bien, on se calme, et ça va, tu vois, à ce moment-là.
Et donc, il y a une thérapeute qui te parle de burn-out.
Et donc, le lundi matin, je vais déposer mon fils à la crèche. Et là, et comment ça s'est passé pour maman ce week-end ? Là, tout sort, quoi. Mm. Et là, ça pète le barrage. Bon, ben, on va prendre Noakin. Allez, viens, mon petit cœur. On va aller te rejoindre les copains. Donc, elle me prend Noakin, elle le met en sécurité. Et moi, elle me dit, vous venez avec moi. On a une psychiatre qui est là, elle va vous accompagner, enfin une psychologue. Et donc c'était la psychologue de la crèche, extraordinaire, elle m'a accompagnée. Et c'est là qu'elle m'a dit, alors déjà vous êtes hypersensible, parce qu'en fait au troisième rendez-vous elle avait lu mon premier livre. Et elle me dit, écoutez, moi j'ai compris des choses, je pense que ça va vous aider. Moi j'ai vu votre fils puisque j'accompagne les bébés à la crèche. Voilà, j'ai ressenti des choses et c'est elle qui me dit, vous allez lire ce livre et vous allez enfin faire la rencontre avec vous-même. Le livre trop intelligent pour être heureux. Et à partir de là, j'ai pu enfin comprendre qui j'étais, l'accueillir, comprendre que j'étais pas folle, que c'est juste que j'avais tout un tas de choses en moi qui n'avaient pas du tout été respectées, mais depuis trop longtemps, en fait.
Ouais,
depuis trop longtemps. Et donc, ça m'a permis aussi de mieux m'accompagner, pour encore mieux accompagner mon fils, et me guérir, quoi.
Ouais.
Tu vois.
T'as pu faire ton deuil de ta maman, t'as pu refermer certaines cicatrices.
Après, je me suis mise à écrire, et ça fait du bien aussi, quoi.
Ouais.
J'ai écrit sur le deuil de ma mère, donc ça m'a libérée. Et après, j'ai écrit sur cette période-là qui était terrible, quoi. Et c'est vraiment fou, parce que, tu vois, c'était la période là, vraiment, mais la plus douloureuse et compliquée de ma vie. Mais j'en garde quand même un souvenir extraordinaire, parce que ce que je vivais avec mon fils, mais c'était la première fois où il a marché, la première fois où il a parlé. Et puis notre complicité, tu vois, c'était la diversification alimentaire, l'allaitement, qui a duré 27 mois, c'était extraordinaire. Et puis après, quand il y avait les gens, tu l'allaites encore, c'est malsain, De toute façon, t'es dans une relation fusionnelle avec ton fils. Et puis tu vois, fusionnelle, il y a une espèce de... Ça pourrait être beau, tu vois, quand on est en fusion. Mais forcément, il y a du jugement, il y a une grosse connotation négative, genre... Alors après, il y avait des gens qui n'avaient pas eu d'enfants, qui commençaient à accompagner mon père qui était inquiet, qui me voyaient par le biais de ma belle-famille, qui était donc amie avec mon père, enfin, qui est amie avec mon père. Puis biaisé par sa dépression et son truc, et du coup, il était là à parler à des gens que je connaissais de loin, et je me retrouvais avec des amis de la famille qui m'appelaient, qui n'avaient pas d'enfants, et qui me disaient « Oui, on est inquiet, tu ne sors pas de chez toi. » Je disais « Si, je sors de chez moi. » Tu coupes du monde ton enfant, bah pas du tout, on va au parc, il a la crèche, je fais de la rééducation du périnée, je peux le poser par terre et il y a des gens qui le touchent, il n'y a pas de problème. Si c'est fait avec bienveillance et que c'est du respect, enfin, je me sens en sécurité, donc mon enfant se sent en sécurité. Mon enfant n'est pas collé à moi, je le lâche, il pleure pas, enfin... Genre, arrêtez, quoi. Et en fait, tout le monde comme ça venait me voir, genre, putain, meuf, t'es pas normale, t'as un problème. Au point que je me posais vraiment des questions, quoi. Je me disais, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Mais heureusement, j'en discutais avec les dames de la crèche qui accompagnaient mon fils et qui me disaient, ah non, il va bien, il a l'air équilibré, épanoui, sa sécurité intérieure a l'air d'être bien. Non, vous inquiétez pas. Et je me disais, putain, en fait, je suis devenue une mère dysfonctionnelle, tu sais. Instable, enfin...
Et du coup, t'as écrit donc sur tout ça, cet espace dont j'ai manqué, le titre de ton livre. On retrouve quoi, du coup, dans ce livre?
La vérité.
Ouais.
Comme je l'ai dit là. Tu sais, c'est pas facile hein, pour moi de dire ce que je raconte. Ouais, hein. Je me dis, il y a des gens qui vont écouter et qui vont se dire « Oh putain, la barge, quoi, il aurait fallu lui enlever son fils. » Non, mais tu vois, c'est quelque chose qui est en moi quand je raconte ça. C'est pas évident, c'est... Voilà, j'ai le courage de le faire parce que je sais quand même, quelque part, au fond, tout au fond de mon cœur, que mon fils n'a jamais été en danger avec moi. Mais je pense que d'un point de vue extérieur, on peut penser ça. Et j'ai envie de dire à ces femmes qui ont traversé la même détresse que moi qu'elles sont pas seules, qu'elles ne sont pas folles, et qu'en fait, c'est l'entourage qui n'est pas préparé, outillé, qui n'a pas conscience, qui est naïf, qui est sous-informé par rapport à ce que traverse une mère au niveau hormonal, émotionnel ou physique pendant les premiers temps de vie de son enfant, qui contribue à ça, en fait. C'est eux qui déclenchent ça. T'es pas bien et on te pousse, quoi, en fait. Et quand l'espace pour toi représente la sécurité et qu'il est envahi, ben en fait t'es comme un animal, quoi. Tu réagis.
Oui, puis là il est envahi de négatif.
Mais c'est ça, quoi.
C'est
Je n'ai jamais eu de bienveillance, quoi. Ça a toujours été ça, tu fais pas bien, ça, tu fais pas bien, ça, tu fais pas bien. Et en fait, putain, mais j'aurais tellement aimé avoir à un moment donné une main sur l'épaule en me disant, putain, tu t'en sors bien avec les outils que t'as, quoi. Avec ta circonstance, quoi. Avec ton deuil, avec ta dépression, avec ton burn-out, ton post-trauma, qui est quand même le décès de ma mère, la violence de l'impact, alors que je suis de l'autre côté de la planète en mission humanitaire, que je suis toute seule.
Ouais, la césarienne.
La césarienne qui m'a traumatisée, enfin tout ça, tu vois.
Et tous ces gens qui te disent des choses négatives.
Mais c'est ça.
Toujours,
et puis personne s'est dit, putain, la pauvre, dans les conditions dans lesquelles elle a donné la vie... avec son deuil qu'elle n'a pas vécu, ou en tout cas la perte de sa mère, qui est quand même un fait, comment elle vit son deuil ou quoi. Ma mère est morte, quoi. Je veux dire, évidemment que ça laisse des traces. La pauvre, qu'on peut peut-être un peu l'aider, plutôt que de l'accabler, de lui dire « Ah, mais ça va, gna gna gna. » Oh, ah, je te jure, mais tu te dis, mais bout à bout, là, mais tellement de réflexions. Ouais, tu mets ton mec à l'écart, faudra pas t'étonner s'il te trompe.
Ouais, c'est toi qui fais tout mal. T'as pu en parler avec eux de tout ça ? Ou tu vas leur envoyer...
En parler pour quoi ?
Un exemplaire de ton livre.
Pour les convaincre qu'ils m'ont fait ça, pour qu'ils me demandent pardon. Ça n'arrivera jamais.
Non, au moins pour que le message soit passé. Quoi.
Mais encore, ouais. Ils vont le déformer, le message. Ils vont le déformer, le message. Elle est folle. On n'a pas fait ça. C'est ma vérité, c'est comment moi je l'ai vécu. Je suis sûre qu'on leur demande comment ça s'est passé. Ah, oh, ça va, 2-3 phrases, à un moment donné, c'est bon, quoi. Toujours là, avoir les choses sous son prisme. J'ai essayé d'expliquer quand j'étais en détresse. Ma belle-sœur m'a gueulé dessus. De toute façon, toi, t'es qu'une victime. Tu n'es qu'une victime, Marion. C'est jamais ta faute. T'as jamais rien fait. C'est les autres, les méchants. Moi, ma belle-mère qui me sort, de toute façon, t'as toujours eu une relation de merde avec ta mère. Donc faut pas t'étonner d'avoir une relation de merde avec nous. T'as un problème avec les femmes, c'est évident. Comment tu peux me dire ça alors que je porte la culpabilité d'avoir une relation compliquée avec ma mère et de n'avoir eu que 9 mois ? Comment peux-tu t'immiscer dans mes pensées et dans ma relation avec ma défunte mère ? Ouais. Laisse-moi écrire le scénario qui m'aide à me réparer, quoi. Puis je suis bien lucide, t'inquiète pas, je les ai, les remords. Je peux rien faire, en fait, je peux pas la ressusciter, tu vois. Donc merci de pas rajouter un truc. Et non, il n'y a pas de... Les gens voient les choses par leur propre prisme. Et aujourd'hui, je suis éloignée de cette attente-là. Je n'ai plus cette attente-là parce que je sais que ça n'arrivera jamais. Jamais de la vie, les gens arrivent et te disent « Pardon, j'ai merdé. » Jamais. Et d'ailleurs, ils continuent encore à me faire chier, hein, que ce soit clair. Hein. C'est comme ça. C'est moi qui dois changer ma dynamique et dire stop et dire non. Je suis pas obligée de le dire en tapant du poing sur la table. Je suis pas obligée de le dire en insultant la terre entière. Mais j'ai compris qu'en fait, je peux pas attendre de mon conjoint de me défendre devant sa mère. Il le fera pas. Il y a un conflit de loyauté en lui. Je l'ai sûrement choisi d'ailleurs parce qu'il sera jamais capable de le faire. Ouais. Je l'ai choisi pour me donner à moi la force d'être la seule personne qui me défendra, tu vois. Ni mon père, ni mon mec, ni mon fils. Moi. C'est ça que ça m'a appris, tu vois. Et est-ce que je l'ai écrit pour dénoncer ? Moi, ça m'a soulagée de le sortir. Mais je n'ai plus du tout l'illusion de me dire, les mecs vont lire le livre et comprendre ce que j'ai vécu.
Ouais.
C'est impossible. Je le sais. Et puis cette attente, imagine, si elle n'est jamais comblée, satisfaite. Je vais attendre combien de temps ? Je vais encore remettre ça dans leurs mains ? Non, ce livre, je l'ai écrit pour aider des femmes.
Ouais.
Et c'est le cas. Ça aide. Et ça, ça me nourrit et ça me répare, tu vois.
T'as pu échanger avec des femmes qui ont vécu la même chose ?
Oui, mon Dieu, il y en a tellement. Il y en a tellement. C'est sous différentes formes, différents schémas... Des fois, c'est la belle-sœur, des fois, c'est la belle-mère, des fois, c'est le mec, des fois, c'est sa propre sœur, des fois, c'est sa propre mère. Enfin, c'est... Même, il suffit d'aller sur les réseaux, de voir toutes ces nanas qui gèrent leur vie sur la toile, à la baguette, avec sans erreur, sans accroche, sans accroc, et que toi, tu te dis, putain, mais moi, j'en chie ma vie, j'ai mis un an à récupérer mes cheveux, j'étais l'ombre de moi-même, je flottais dans mes fringues et dans mon corps, je ressemblais à rien, j'étais même pas attirante, quoi. Et tu te dis ça, tu sais, genre, je ne suis pas attirante, et puis du coup, tu te fais encore plus du mal. Comment elles arrivent à faire ça ? T'as même pas besoin d'avoir des paroles méchantes, en fait, il suffit d'ouvrir les réseaux et tu t'en prends pour ton grade, quoi. Donc ce livre aussi, il se voulait vrai. Lever le tabou sur tout ça et dire qu'en fait c'est pas vrai, on en chie toutes quoi. Ton estomac il doit se remettre en place, donc t'as des problèmes gastriques les premiers mois, et puis tu te pisses dessus si t'as un problème de périnée, enfin tes seins ils font mal. Alors ouais c'est clair, hein, au niveau sexuel, tes seins n'ont jamais été aussi beaux ni sexy, mais en fait t'as pas du tout envie de faire l'amour quoi. Moi, j'ai une pote que je ne vois plus, une copine de l'époque, gynéco sans enfant, bien sûr, parce que c'est toujours les meilleurs, qui me dit, ah non, mais à un moment donné, moi, mes patientes, je leur dis, faut reprendre la vie sexuelle, quoi, parce que sinon, votre conjoint, en fait, il a des besoins, quoi.
Ouais.
C'est à vous de renclencher la machine. Alors oui, au début, vous n'allez pas avoir envie. Faut se forcer. Une femme qui dit ça à une autre femme. Force-toi à faire l'amour avec ton mec parce qu'il a des besoins. Non, mais what, quoi. Elle est mère depuis. J'ai envie de lui demander, alors, tu te forces avec ta foufoune agressée pendant des heures et des heures avant d'accoucher? Comment ça se passe pour ta foufoune? Tu lui dis ça à ton corps? Force-toi, chérie. Allez, remets-toi au fourneau, là, parce que sinon, ton mec, il va te tromper. Non, mais tu vois ce que je veux dire? C'était ouais. Là, what, quoi?
C'est archaïque.
Ah, mon Dieu.
Comme penser. D'autant plus de la part d'une professionnelle, mais c'est dangereux.
Quoi. C'est dangereux. Et puis, il n'y a pas besoin d'elle. J'ai sorti un témoignage sur mon burn-out avec Combini en décembre. Alors, il y avait des commentaires d'hommes qui étaient très, très drôles. Parce que j'ai le recul et que je vois toujours le sketch dans chaque situation. Donc, c'était OK, tu vois. J'ai su les prendre avec autodérision et en rire. Mais il y avait des commentaires de femmes. Mais au secours, quoi. Ouais, moi, j'ai 3 enfants. Je m'en suis très bien sortie. De toute évidence, vous n'étiez pas faite pour être mère, madame. Mais comment tu peux dire un truc comme ça? Comment il peut pas y avoir de solidarité dans au moins un petit coin de ton cœur pour te rendre compte que cette femme n'avait pas les mêmes outils que toi? Que j'avais pas les mêmes outils que toi? Comment tu peux me dire un truc comme ça, quoi? Waouh! Excuse-moi, madame, quoi. Toi, t'as géré, t'as serré les poings, t'as été forte. Mais t'as perdu ta mère avant de tomber enceinte? Et puis, est-ce que t'avais cette sensibilité que j'ai? Enfin, tu vois, genre, te compare pas. Enfin, c'est horrible, je trouve ça horrible. Comment on peut dire ça à quelqu'un qui est à terre, quoi?
Ouais, et puis toutes ces femmes, chacune a son histoire.
Et de toute façon, c'est reconnu scientifiquement. On vit pas la même douleur de la même façon. Personne n'est égal devant la douleur. Donc, bon, après, ça, c'est les personnalités. Mais moi, j'ai quand même plus envie de tendre la main à celle qui en chie que de leur mettre un coup de pied au cul en lui disant, bah, écoute...
Démerde-toi.
Ouais, c'est clair. Et puis surtout, tu fais pas de vagues, s'il te plaît. Oh, mais quelle horreur, quoi. Ouais.
Et aujourd'hui, alors, comment ça va? T'as réussi à te reconstruire?
Bah, je suis allée chercher en moi ce que je cherchais à l'extérieur. Donc déjà, c'était cool. J'ai pu le trouver à cet endroit-là. Ouais. Donc déjà, c'est plus facile pour apprendre à pardonner, apprendre à se reconstruire, à avoir confiance en soi. Mon fils m'a beaucoup aidée en étant ce qu'il est, en étant dans la joie, en étant équilibrée. Je me dis, bon, bah, j'ai pas tout raté, finalement. Et le père de mon fils a lu le livre, donc « Trop intelligent pour être heureux », il a compris des choses, il a accepté de se remettre en question, puis il a lu mon livre sur le burn-out dans lequel il intervient. Je dirais pas qu'on l'a coécrit, mais je lui ai demandé de faire un chapitre sur lui. J'avais envie, tu vois, qu'il ait une place là-dedans pour plus tard, même si on était séparés à ce moment-là. Donc il raconte sa version de l'accouchement et de comment lui l'a vécu. Ah ouais. Et il dit qu'en fait, il trouve que la césarienne, c'était trop bien. Parce qu'il avait pu être le premier à prendre le bébé et avoir ce peau à peau. Et tu vois, je trouve que ça aussi, ça a du sens. Et que c'est OK, tu vois, dans sa vérité à lui. Donc, c'était beau de mettre une contrepartie joyeuse et lumineuse dans ce scénario qui, de mon point de vue, était terrible pour moi. Donc ça, c'était intéressant. Et lui, ça l'a aidé à se remettre en question et à m'accompagner, et ça m'a permis aussi de guérir et de... Voilà, après, de sortir le livre et de voir que ça aide des femmes et d'entendre que je ne suis pas seule, puisque si elles ne sont pas seules, ben moi non plus, du coup, par conséquent, et du coup, c'est vrai que ça aide beaucoup. De pouvoir en parler librement et de pouvoir dénoncer à voix haute comme ça aussi, ça aide. J'ai retrouvé la force en sortant de chez moi, en me remettant à travailler, en prenant du temps pour moi, en ayant développé mon activité, en ayant ouvert en 2020 ma maison d'édition, en ayant sorti le livre de témoignages sur le décès de ma maman, ça aussi, ça a contribué. Et voilà, petit à petit, je me suis...
Créé ton espace.
Et je me suis réconciliée avec mon corps.
Ouais.
Je lui ai demandé pardon, aussi. Et j'ai vu que j'étais capable d'élever mon enfant seule. Ouais. Et ça, ça aussi, c'est une force. Je sais que quoi qu'il arrive, aujourd'hui, je sais le faire, que j'en suis capable.
Et aujourd'hui, t'arrives à ne pas laisser entrer les gens dans ton espace?
Je crois que oui.
Ouais.
J'arrive à dire non. J'arrive à dire non en ayant parfaitement conscience que si je dis non, c'est pour moi et pas contre l'autre. Mmh. Et qu'en face, ça lui appartient d'en faire ce qu'il veut. Ouais. Il peut se faire le scénario qu'il voudra dans sa tête, c'est pas mon problème. Moi, je sais que si je dis non, c'est pour moi ou pour mon bébé et par amour pour moi. C'est la seule émotion qui anime ma décision. Après, en face, franchement, les gens, ils peuvent se raconter les scénarios qu'ils veulent. Ça m'appartient pas, ça leur appartient. Et on sait qu'en fait, quand tu juges, c'est que t'as la naïveté de croire que tu ferais mieux que l'autre à sa place, sauf qu'en fait, t'es pas dans sa tête, t'es pas dans son corps, t'es pas dans sa vie, t'es pas dans son histoire, tu n'as aucune certitude que tu réagirais pas comme lui, mieux que lui, bien sûr, l'ego. Donc, tu vois, il peut me juger. Aujourd'hui, ça m'atteint plus.
Ouais.
Je sais ce que je vaux et je suis OK avec mes faiblesses et je sais ce que je vaux et je sais que je fais de mon mieux au mieux de mes capacités.
Ouais. Et alors, ça a changé quoi pour toi, la maternité?
Ça m'a permis de découvrir la force qui était en moi, que je ne soupçonnais pas. Ça m'a permis de découvrir l'amour, cet amour-là, d'être mère. Ça m'a valorisée, de me dire je suis capable de créer la vie, je suis capable de nourrir la vie. Je suis fière de moi pour tout un tas de choses, et quand je vois l'enfant merveilleux que devient mon fils, je suis fière de ça. même si c'est un travail qu'on a fait à trois, avec son père bien sûr aussi, et puis tous les gens qui sont rentrés dans nos vies à tous les trois.
Oui, parce qu'il y a des bonnes personnes aussi.
Il y en a plein. Dans cette histoire. Il y en a plein, bien sûr, il y en a plein.
Enfin, qui t'ont aidé.
Ouais. Genre l'arrière-grand-mère qui me dit « Oh, c'est magnifique d'allaiter !» Justement, la mère de ma belle-mère qui était pour le coup extra... Enfin, qui est pour le coup, parce qu'elle a encore envie, extraordinaire, et qui était là « Oh, c'est trop beau, c'est trop beau quand t'allaites ton fils !» Je me disais « Putain, tu l'as pas dit à ta fille, il faudrait lui dire, quoi !» Mais oui, non, il y a plein de belles personnes, et heureusement, tu vois, mais souvent, c'est pas des proches, en fait, et c'est ça qui est, assez fou et surprenant. Mais ça contribue à se reconstruire. Mais je pense que de ne pas être que dans la maternité. Parce que quand on s'enferme que là-dedans, on se perd. Je ne suis pas que la maman de Noaquin. Je suis aussi Marion l'écrivaine, Marion l'amie, Marion l'amoureuse. Faut pas s'oublier, quoi.
Ouais.
Mais je pense que c'est OK si on s'oublie les deux premières années. Parce qu'en fait, on ne peut pas faire autrement. Si c'est trop long derrière, il y a des trucs à recoller, quoi.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode.
Avec plaisir.
C'est quoi pour toi être une maman landaise ?
Oh, c'est trop cool. C'est avoir la chance de faire des balades en vélo en forêt avec son enfant l'hiver, aller récupérer son fils à l'école à 4h30 et l'emmener jouer et faire des châteaux de sable à la plage le soir. C'est vivre en connexion avec la nature et dans un rythme hyper smooth, un peu comme si on était en vacances toute l'année, quoi.
Quel est ton endroit kids-friendly préféré dans les Landes ?
La forêt, la plage, pas de barrière, tous les possibles, tu peux t'inventer des jeux avec une pine de pin ou une vague, donc ouais.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors les projets rien que pour moi, ouais, faut que je reprenne rendez-vous avec ma masseuse. Mmh. En plus elle fait des massages tantriques, j'ai envie de voir ce que c'est, ça peut être cool. Donc ça, et après les projets en famille... J'ai envie, même si on est séparés aujourd'hui avec le père de mon fils, on est encore une famille tous les trois et on a à cœur de vivre des moments d'amour tous les trois en famille parce qu'on s'aime encore et je pense qu'on s'aimera toute la vie. C'est de relouer à nouveau un camping-car en hiver et de partir 3 semaines au Maroc. Ça, c'est un truc qui nous fait vibrer, le camping sauvage et la vie en camping-car. Ça, on kiffe. Van life, pour le thème hyper à la mode.
Merci beaucoup Marion.
Merci à toi Chine.
Voilà les mamas, c'est un épisode qui s'achève. Merci pour votre écoute. On se retrouve dès mardi prochain pour découvrir une nouvelle histoire qui parle de la maternité, la vraie. En attendant, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et un avis sur votre application de podcast préférée et rejoignez la communauté Hello Mamas sur Instagram. À très vite.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.